Valeur HI 203 et 209, Histoire médiévale. Sixième cassette, première phase présentée par Monsieur Neveu.
L'organisation administrative de l'Empire carolingien. Par rapport à la période mérovingienne, la période carolingienne apparaît comme une période de réorganisation administrative. C'est vrai sous les prédécesseurs de Charlemagne, mais c'est surtout vrai sous Charlemagne lui-même. Il s'agit d'un effort certain de l'autorité centrale pour tenter de dominer cet immense ensemble. Évidemment, les souverains se heurtent à de multiples difficultés. Il y a les problèmes de distance très grande, en particulier sous Charlemagne, entre le nord de l'Europe et l'Italie centrale, la diversité des populations, très grande également, en particulier après les conquêtes de Charlemagne, et la mauvaise volonté des grands qui apprécient mal le contrôle renforcé de l'administration de Charlemagne notamment. En ce qui concerne les sources, nous possédons les grands textes administratifs de la période. Mais nous ignorons dans quelle mesure les directives étaient appliquées. Et c'est une des grandes difficultés de l'histoire carolingienne. Cependant, on peut supposer que ces directives étaient mal appliquées, car elles sont souvent répétées d'un texte à l'autre. Nous organiserons notre exposé selon trois axes. Première partie, ce qu'on peut qualifier d'administration centrale. Deuxième partie, l'administration régionale. Troisième partie, l'administration de la justice. Car il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Première partie donc, l'administration centrale. On peut d'ailleurs mettre des guillemets à ce terme de centrale, puisqu'il ne s'agit pas d'une véritable centralisation au sens moderne. Le roi, puis l'empereur à partir de 800, jouit théoriquement de tous les pouvoirs. Mais ce sont les instruments d'une bonne exécution qui lui manquent. Voyons d'abord quels sont autour de l'empereur les services du palais. Les premiers rois carolingiens se déplacent constamment de domaine en domaine, comme les mérovingiens. Par conséquent, il n'y a pas de capitale fixe. Et les services du palais doivent se déplacer avec les souverains. Cette situation ne changera qu'en 794, lorsque Charlemagne fixera une capitale à Aix-la-Chapelle, où il construira un palais. Auparavant, donc, les services suivaient le roi dans ses déplacements. Il s'agit d'une administration extrêmement rudimentaire. Et en particulier, il n'y a pas de distinction entre services publics et privés. Voyons donc quels sont les grands officiers du palais, chargé à la fois du service domestique et du service public. Le maire du palais a disparu. Bien entendu, les Carolingiens ne tiennent pas à ce que de nouveaux maires du palais puissent leur ravir le pouvoir qu'ils ont conquis. Par conséquent, le premier officier est le sénéchal, qui remplace en quelque sorte le maire du palais. Le sénéchal, en latin sénescalcus, est chargé du ravitaillement du palais. Vient ensuite le connétable, en latin comes tabuli, mot à mot le comte de l'étable, c'est-à-dire le comte de l'écurie, celui qui est chargé de la cavalerie royale. Cette charge est appelé à un grand avenir, car le chef de la cavalerie royale, deviendra, dans la suite du Moyen-Âge, le chef de l'armée, étant donné que la cavalerie est appelée à devenir l'élément principal de l'armée, sans doute dès l'époque carolingienne. Ensuite, nous avons le bouteiller, en latin bouticularius, autrement dit chef des échansons, une fonction donc tout à fait domestique, celui qui est chargé de la boisson à la table royale. Ensuite, nous avons le chambrier, en latin camerarius, qui est le gardien de la chambre royale. Cet officier a un rôle très important, car dans cette chambre royale est déposé le trésor. Le trésor, qui est un véritable bric-à-brac, car y sont entreposés tous les objets reçus en cadeau, soit de la part des grands, soit de la part de quelques délégations étrangères, par exemple byzantines ou venant de l'Empire arabe. En dehors de ces services qui sont accomplis par des laïcs, nous avons des services spécialisés confiés à des clercs. D'abord, la chapelle royale, qui est composée d'un certain nombre de chapelains chargés de dire les offices pour le roi et ensuite pour l'empereur. Le chef de cette chapelle sera dénommé sous Louis le Pieux l'archichapelain. Ensuite, nous avons la chancellerie, qui est composée de notaires, autrement dit de scribes, dirigés par un chancelier, en latin cancellarius. Le chancelier est chargé de la rédaction et de l'expédition des actes au nom du roi puis de l'empereur. Enfin, le comte du palais, en latin comes palatii, est chargé de présider le tribunal royal en l'absence du roi ou par la suite le tribunal impérial. Et donc, en quelque sorte, après le roi ou l'empereur, le chef de la justice. Le souverain carolingien ne gouverne pas seul, mais il le fait par l'intermédiaire d'une assemblée générale que les textes dénomment en latin conventus generalis ou placitum generale. Cette assemblée a lieu tous les ans avant le départ en campagne militaire, au début de la période au mois de mars, ensuite vers le mois de mai et juin. En principe, tous les sujets sont convoqués. En fait, seuls les grands participent effectivement à l'assemblée. C'est-à-dire les ducs, les comtes, mais aussi les évêques, les abbés. Par conséquent, cette assemblée réunit à la fois les grands laïcs et ecclésiastiques. D'ailleurs, ils se réunissent souvent séparément et ensuite l'assemblée se termine par une réunion plénière au cours de laquelle sont rédigés ce qu'on appelle les capitulaires. Les capitulaires sont les décisions divisées en chapitres, en latin capitula, d'où ce nom de capitulaire. Ces capitulaires nous indiquent quelles sont les grandes décisions prises à l'époque carolingienne. Ensuite, le capitulaire est approuvé par le peuple présent par acclamation. Il y a un problème qui se pose, comment maintenir l'unité d'un ensemble aussi immense que l'Empire carolingien. L'un des moyens qui a été employé est le serment de fidélité imposé par Charlemagne à partir de 789 à tous les sujets du royaume à partir de l'âge de 12 ans. Une autre question qu'on peut se poser, c'est celle des moyens financiers dont disposait le roi puis l'empereur. Les impôts n'étaient pas indispensables au fonctionnement des services centraux. Le principe est que l'empereur vit du sien, c'est-à-dire de ses propres revenus. Quant aux fonctionnaires, entre guillemets, ils sont payés par des concessions de terres qu'on appelle des honneurs. Cependant, il reste quelques impôts fonciers directs datant de l'époque romaine. À vrai dire, ils sont en voie de disparition. L'impôt principal n'est pas destiné au pouvoir royal ou impérial, mais à l'Église. C'est la dîme ecclésiastique qui représente un dixième du revenu et qui est imposée à tous depuis Pépin le Bref. Mais en fait, elle est perçue par l'autorité publique au profit de l'Église. Il existe également des formes camouflées d'impôts, par exemple les dons annuels exigés des grands propriétaires et qui alimentent la chambre royale. Enfin, des impôts indirects, appelés tonlieux, en latin telonea, on trouve sous ce nom des taxes diverses sur les marchandises, des taxes de douane, de péage, etc. Voilà donc ce qu'on peut qualifier d'administration centrale. Mais loin du pouvoir royal, les administrateurs locaux avaient le beau rôle. Cependant, Charlemagne et ses successeurs font des efforts méritoires pour les mieux contrôler. Deuxième partie donc, l'administration régionale. Comment administrer un si vaste ensemble? Les régions centrales de l'Empire, disons entre Loire et Rhin, et d'un autre côté jusqu'aux Alpes, sont administrées par des comtes, en latin « comes » et en langue germanique « graf ». À côté des comtes, vous avez des subordonnés appelés « vicomtes » en latin « vicé comes » ou bien « vicaire », ce qui a donné en français parfois « voyer » ou « viguier ». Mais les régions plus lointaines sont soumises à des régimes particuliers. C'est le cas notamment pour l'Aquitaine et la Lombardie, et qui sont administrés par des rois secondaires. Charlemagne distribue ses royaumes à ses fils, par exemple Louis le Pieux est roi d'Aquitaine et Pépin roi d'Italie. Ensuite, nous avons des ducs pour certaines régions lointaines comme la Gascogne ou la Bavière. Et enfin, nous avons des comtes de la Marche, ce qui a donné en français marquis et en allemand Margraf, d'où le français margrave. On trouve ce système, qui est un régime militaire, dans les régions frontalières, par exemple aux marches de Bretagne, ou encore la marche d'Espagne, la marche de Carinthie, la marche des Normands, et qui a donné son nom au Danemark, ce qui signifie la marche des Danois. Le problème qui se pose est de contrôler ces administrateurs locaux. Et là, nous avons affaire à une institution nouvelle et créée par Charlemagne, celle des missi dominici. Il s'agit d'inspecteurs, mot à mot les envoyés du maître, qui sont chargés d'aller contrôler les actions des administrateurs locaux. Alors j'aimerais que vous ayez sous les yeux le texte qui vous est distribué avec cette leçon qui s'intitule « Instruction aux missi dominici ». C'est un texte qui date de 825 et donc du règne de Louis le Pieux. Vous avez d'abord, dans les premières lignes, une énumération d'un certain nombre de circonscriptions qui sont confiées à des missi dominici. Vous voyez que pour chacune de ces circonscriptions, vous avez un évêque et un comte. Les missi vont toujours par deux et s'occupe à la fois des affaires laïques et ecclésiastiques. Ces évêques et ces comtes sont choisis par les administrateurs et ils contrôlent leurs propres confrères en quelque sorte. La suite du texte, à partir de la ligne 9, nous indique quelles sont les attributions principales de ces missions. Je résume rapidement. Ils doivent réunir une assemblée, donc reproduire ce que fait l'empereur lui-même, c'est à la ligne 9, et dans cette assemblée, notifier ce qui est leur legatio, autrement dit, leur mission. D'autre part, ligne 12, au cas où un comte ou un évêque serait empêché, ils doivent le remplacer momentanément et, le cas échéant, faire appel à l'empereur. Troisièmement, ligne 15, ils doivent réprimander et remettre dans le droit chemin les comtes ou les évêques négligents de leur ministère. Et c'est évidemment le rôle principal. De même, ligne 18, ils doivent rendre la justice à la place du comte négligent, incapable ou indisponible. Vous voyez qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. En fait, sur le plan de la justice, il constitue donc un échelon intermédiaire, nous en reparlerons tout à l'heure. Enfin, ligne 29, ils doivent diffuser les décisions impériales, essentiellement les capitulaires. Enfin, ligne 22, les missies ne doivent pas se disperser et ne doivent rien laisser à corriger dans leur mission. Conclusion, c'est une institution déjà ancienne, quand le texte est rédigé, plus de 30 ans, il y a donc besoin de rappels fréquents. À vrai dire, le principal défaut de ce système, c'est que les inspecteurs sont choisis parmi les inspectés. L'institution des missies ne suffira donc pas à corriger tous les abus des administrateurs locaux. Vous l'avez vu, la séparation des pouvoirs n'existe pas. Et par conséquent, la justice est assurée par les administrateurs locaux. Ceci m'amène à ma troisième partie, intitulée « L'administration de la justice ». Il faut d'abord se rendre compte que les lois sont très diverses. Vous avez par exemple la loi salique, la loi des Francs, dans sa version de 798, Charlemagne, révisée à cette époque, mais aussi d'autres lois, la loi Ripfer, appliquée sur les bords du Rhin, la loi Burgonde, etc., etc. Cependant, l'organisation de la justice est à peu près la même dans les différentes régions de l'Empire. C'est le comte qui, dans ce domaine également, joue le rôle essentiel. À vrai dire, il est chargé personnellement de ce qu'on appelle les causes majeures, c'est-à-dire les crimes les plus graves. Il laisse les causes mineures, les infractions beaucoup moins graves, à ses vicaires ou éventuellement à ses centeniers, c'est-à-dire à des subordonnés. Le comte tient des assises régulières qu'on appelle malles, M-A-2-L, qui vient du latin malus, ce mot étant lui-même une latinisation du germanique Malberg. On appelle aussi ces assises des plaies, P-L-A-I-D, du latin plaquetum. En principe, ces assises réunissent tous les hommes libres du comté, mais en réalité, là aussi, tout le monde n'est pas présent. Et d'ailleurs, le comte fait payer des amendes de remplacement. Ensuite, le comte est assisté par des juges professionnels. Au début, ce sont de simples notables, appelés Rachimbourg, c'est surtout vrai à l'époque mérovingienne, mais à l'époque carolingienne, ce sont de véritables professionnels, appelés échevins, du latin scabini. Ils sont entre 7 et 12 par comté. Leur rôle est précisément de dire le droit. Et par conséquent, Ils doivent connaître la loi et éventuellement connaître les différentes lois en usage dans tel ou tel territoire. C'est au comte que revient évidemment le soin de prononcer la sentence. Il y a généralement 3 sessions judiciaires dans l'année. C'est d'ailleurs la limite imposée par Charlemagne lui-même. En fait, selon les lois germaniques, la plupart des crimes ou des délits sont sanctionnés par des amendes. Toute atteinte au droit d'autrui en général est sanctionnée par une amende compensatoire. Or, une part de cette amende, exactement un tiers, revient à l'autorité royale. Et sur cette part du roi, un tiers revient au comte. Par conséquent, le zèle du comte est encouragé. Il a intérêt à ce que les amendes soient nombreuses. Par ailleurs, le comte perçoit également le tiers des amendes perçues pour infraction aux ordres du roi, autrement dit infraction à ce qu'on appelle le ban. Et bien entendu, il y a de nombreux abus. Les agents royaux ont tendance à multiplier ces amendes et les comtes eux-mêmes à en profiter. Le terme pour désigner ces amendes, le terme germanique, c'est celui de fredum, pluriel, freda. L'amende est d'un montant très élevé, le minimum étant 60 sous, ce qui représente déjà une forte somme, et parfois, cette amende peut être doublée ou triplée et s'accompagner de la confiscation des biens. Au-dessus de la justice du comte, il y a d'autres étages, si je puis dire. Nous avons déjà parlé tout à l'heure des missis. Quand ils sont en mission, ils peuvent réviser les sentences du comte. Ils représentent donc une première possibilité d'appel. Et la seconde possibilité d'appel, et la dernière d'ailleurs, est l'appel au tribunal royal qui siège au palais d'Aix-la-Chapelle à l'époque de Charlemagne. C'est évidemment l'instance suprême à laquelle on peut faire appel. C'est notamment le cas pour les fonctionnaires royaux, c'est le cas aussi pour les désobéissances graves aux ordres du roi, c'est le cas aussi pour les procès concernant les grands, les comtes, les évêques ou les abbés. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le roi ou l'empereur est assisté du comte du palais, un grand officier qui le remplace en cas d'absence en ce qui concerne la justice. Néanmoins, certains sujets échappent à la justice royale. Et d'ailleurs, du fait d'un privilège qui a été accordé par le roi lui-même. C'est ce qu'on appelle le privilège de l'immunité, qui est surtout accordé, en fait, à un certain nombre de grands domaines ecclésiastiques. Ces domaines sont donc soustraits à l'action des agents royaux, y compris du comte, et ils dépendent directement du roi ou de l'empereur. À leur tête se trouve généralement un évêque ou un abbé, qui est donc un immuniste, et ce grand personnage a son propre tribunal, du moins pour les causes mineures, car il doit présenter l'inculpé au tribunal public pour les causes majeures. L'immuniste qui est ecclésiastique doit disposer d'un appareil administratif et, comme il est clair, il ne peut pas assurer lui-même l'essentiel des charges. Il doit donc les confier à un agent laïque. Ces agents laïques sont appelés avoués ou vidames. En latin, advocatus, qui est le mot qui a donné avocat et avoué, et vice dominus, vice-seigneur, mot à mot, ce qui a donné en français vidame. En fait, la plupart du temps, ces grands personnages, avoués ou vidames, sont nommés par le roi. et par conséquent, théoriquement, ce système doit renforcer la dépendance vis-à-vis du roi, mais c'est néanmoins un système dangereux dans la mesure où le pouvoir royal va s'affaiblir par la suite. J'en arrive à ma conclusion. L'administration carolingienne est nettement insuffisante pour ce vaste empire. Et elle ne parvient pas, en fait, à maintenir la paix et la justice. En réalité, il faut distinguer différentes périodes. Du vivant de Charlemagne et au début du règne de Louis le Pieux, il y a un effort méritoire pour développer l'action administrative. Néanmoins, de nombreux obstacles subsistent. Mais après la mort de Charlemagne, et surtout à partir des années 830, se développe un climat d'insécurité qui va évidemment nuire à la bonne marche de l'administration. On va assister à des actes fréquents de brigandage, sans compter les nouvelles invasions qui apparaissent à cette époque-là, nous en reparlerons bien entendu, c'est-à-dire les invasions des Vikings, celles des Sarrasins et plus tard celles des Hongrois. D'autre part, vous aurez aussi la crise politique au sommet dont nous reparlerons également, en particulier la lutte pour le pouvoir entre Louis le Pieux et certains de ses fils, puis entre ses fils eux-mêmes. Enfin, ce climat facilite les exactions fréquentes des agents locaux de l'administration. L'une des conséquences de tous ces événements, c'est l'extension rapide de la vassalité qui va permettre, dans une certaine mesure, de pallier aux insuffisances administratives de l'Empire carolingien, et c'est ce que nous allons étudier dans la prochaine leçon.